Nous prenons nos Bibles dans Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 36. Matthieu 26, 36. Le Seigneur parle de sa mort et sa résurrection à ce moment-là. Il dit qu'il sera une occasion de chute, comme il est écrit. Et il dit que le berger sera frappé et que le troupeau, les brebis seront dispersés. Il parlait de sa mort à venir. Et nous arrivons à ce moment-là, Pierre, lorsqu'il entend ça, Pierre dit au Seigneur, « Non, Seigneur, et même si cela doit arriver, eh ben moi, je te suivrai partout. » Et le Seigneur lui dit, « Avant même que, cette nuit même, je te le dis avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. » Nous arrivons au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici. » Celui qui me livre est proche. Et la suite du passage, c'est le baiser de Judas et l'arrestation du Seigneur. Et nous voyons au travers de cette histoire la souffrance que le Seigneur a dû vivre à ce moment-là. C'était un grand combat pour le Seigneur, à tel point qu'il demande le soutien des disciples. Alors, en méditant ce passage, je me suis posé la question, mais est-ce que le Seigneur demande de l'aide parce qu'il est dépassé? Lui qui est tout puissant, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui a ressuscité des morts, lui qui a, au moment où on vient l'arrêter, Pierre coupe l'oreille d'un soldat, il remet l'oreille encore du soldat. Donc il avait la possibilité d'agir. Et lui-même, il le dit à Pilate et à ses juges, il dit, mais j'ai la possibilité, la capacité d'envoyer une légion d'anges pour vous exterminer. Mais voilà que lui qui est le Fils de Dieu, eh ben, il se retrouve à demander le soutien des disciples. Il se retrouve à demander de l'aide. Et on a lu à trois reprises, il vient, il repart, il revient, il trouve qu'il dorme. Il repart, il revient, il dit, mais aidez-moi, soutenez-moi, priez, prions ensemble, parce que le combat qui m'attend est un combat qui est très important. Le Seigneur lui-même a sollicité le soutien de ses proches. Le thème de notre exhortation, on va faire en sorte de ne pas être trop long pour qu'on garde le message, mais c'est n'ayons pas honte de solliciter l'aide de Dieu. L'humain, l'être humain a une fierté. Et cette fierté-là l'empêche d'arriver à un certain niveau. Il se dit, je peux m'humilier, mais mon rang, vu l'importance que j'ai, vu l'influence que j'ai, eh ben, à un certain niveau, eh ben, je refuse. C'est ce qu'explique, entre autres, qu'on voit des personnes, les faux serviteurs, les faux bishops, qui aujourd'hui sont même convaincus de péché, c'est vu à l'œil nu, certains tombent dans l'homosexualité, certains tombent dans des abus graves, mais ils sont arrivés à un point tellement grand que revenir en arrière pour dire « Pardonnez-moi, j'ai mal fait eh », ben, c'est trop dur pour eux. L'orgueil les empêche d'arriver à ce point-là. On te dit « Tu as mal fait ». Oui, mais, il y a toujours des explications. Jamais on te dit « Tu as fait quelque chose, tu te tais comme David ». David, on lui dit « Voilà, tu as péché ». Nathan lui parle, il donne une parabole avec sagesse. David avait l'esprit de Dieu, il avait la pensée de l'Éternel. Lorsque Nathan lui parle, il comprend, il dit oui, cet homme-là, il mérite la mort. Lorsque je médite ce passage-là, je me dis, je comprends pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est une parenthèse. Pourquoi ? Parce que David pratique la parole de Dieu. Matthieu 7, 12 qui dit, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, toi-même, applique-le pour toi. Il dit, cet homme-là mérite la mort. Mais est-ce que David ne savait pas que cet homme, c'était lui ? Il le savait. Je pense que si ça nous arrivait, on dirait « Oh là 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 là, mais c'est trop grave, mais ce qu'il a fait. » Mais si on sait à ce moment-là que c'est moi, on va doser un petit peu en disant « Bon, on ne sait pas ce qui a pris la personne. » Mais David est juste, il est juste. Il dit « Cet homme-là doit être tué. » Lorsqu'il fait le dénombrement, il désobéit à l'ordre de Dieu. Le prophète vient et lui dit « Bon, Dieu te demande de choisir entre trois fléaux. » La maladie, perdre contre les ennemis ou la mort. Et David, il dit, bon, je préfère encore être sous le jugement de Dieu plutôt que d'aller sous les mains de mes ennemis. David est juste dans son jugement. Il dit à Nathan, cet homme-là, il mérite d'être tué. Et Nathan ajoute, il dit, mais David, mais cet homme-là, c'est toi. David n'a pas discuté pour dire, mais tu comprends, je suis roi, mais cette femme, elle m'a tenté. J'étais sur le balcon, j'ai vu, tu sais, l'homme est faible. Non, non. Il a reconnu et le prophète lui dit, voilà, à cause de ceci, voilà, l'épée ne sortira pas de ta maison et on connaît l'histoire. Et David a accepté cela. Et on revient à notre thème d'aujourd'hui, c'est que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lorsque je lis ça, je dis, il y a un enseignement derrière parce que le Seigneur ne permet pas. Quand le Seigneur insiste sur une pensée, c'est qu'il y a vraiment un enseignement qui est derrière. Et l'enseignement qui est là, c'est nous dire, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient quémander le soutien de ses disciples pour dire, aidez-moi, priez. Il part, il revient, il dit, priez pour moi, soutenez-moi. Il revient, il repart encore, il dit, aidez-moi. Et comme on a dit tout à l'heure, la nature humaine a une certaine fierté, un certain orgueil qui fait que on peut s'excuser aujourd'hui et demain lorsqu'on retombe dans la même chose, il y a des pensées humaines de la chair ou des pensées du diable aussi qui vont te dire « Mais tu as déjà demandé pardon hier, tu vas encore demander pardon aujourd'hui, tu es un mauvais chrétien. » Qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont penser que tu fais exprès, que tu abuses. Ils vont penser que tu exagères. Et soutenu par notre orgueil, on se dit « Bon, c'est bon. » Tant qu'on ne me sollicite pas, tant qu'on ne me dit rien, bon, ni vu ni connu. Mais au fond de nous, on sait qu'on est dérangé. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient demander de l'aide. Comme on l'a dit, ce n'est pas parce que Jésus était dépassé par ce qui lui arrivait. C'est vrai, il y avait une souffrance. Mais c'est une souffrance qu'il a acceptée parce que c'était le plan de Dieu. Voilà pourquoi il prie, il dit, Père, si c'est possible d'enlever cette coupe. Mais au fond de lui, il sait que c'est pour cette mission-là qu'il est venu. Ésaïe 53 le dit. Il dit alors, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais le Seigneur sollicite l'aide de ses disciples. Et il est écrit dans Luc 23, 24, ce même passage, on nous dit, lorsqu'il prie, il y a un ange de Dieu qui vient pour le fortifier, pour le soutenir. L'être humain a du mal. Nous sommes dans un contexte, surtout ici, en Occident, où on veut vivre chacun sa vie. Je connais un chrétien qui me disait même, qui me dit, bon, je suis pas obligé de justifier mes absences, parce que tu comprends, j'ai ma vie privée. Je ne suis pas obligé de tout dire. Je dis oui, tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé de tout dire, tu es libre. Mais dire, pour un chrétien, j'ai ma vie privée, ah, ça c'est un langage qui est bizarre. Moi, je n'emploierai pas ça. Elle dit, mais pourquoi ? Je dis non. Tu dis pas non. Tu dis que j'ai, bon, des raisons que je ne veux pas évoquer, tout simplement pour le moment, mais tu ne dis pas j'ai ma vie privée. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui, à une certaine heure, ils sont chrétiens, à une autre heure, même des pasteurs même. Ils ferment le téléphone, ils sortent les chiens comme on nous raconte souvent, voilà, comme ça, à une certaine heure, on ne dérange plus. On ne dérange plus. Et là, le Seigneur Jésus, lui-même, il vient demander de l'aide. Il dit, aidez-moi, soutenez-moi, priez pour moi. Le contexte dans lequel on vit ici en Occident est un contexte où chacun veut faire les choses par lui-même. Mais Dieu nous rappelle toujours que nous avons besoin de dépendre de l'autre. Parce que ce sont des règles qui sont fixées par le Créateur. C'est comme la pesanteur, que tu le veuilles ou pas, que tu boudes ou pas, eh ben c'est comme ça. Dieu a fixé ses règles. Tout le monde va se plier à ces règles-là. Et dans ces règles-là, c'est quoi ? Dieu a fixé des règles de telle sorte que nous vivions ensemble, tous, dans une sorte d'interdépendance. Et on le voit avec la nature, un enfant, eh ben, il a besoin de ses parents. Ses parents s'en occupent. Et quand il sera grand, il sera parent, il fera aussi la même chose. Et celui qui est parent, il a aussi besoin des gens autour de lui. Même s'il dit, moi je veux vivre seul, eh ben, un jour il va tomber malade. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il ira voir un médecin. Et le médecin va s'occuper de lui. Et le médecin lui-même aussi, quand il n'est pas bien, il y a aussi un autre médecin qui s'occupe de lui. Dieu a fait des choses de telle sorte qu'on vive les uns les autres dans une interdépendance. Le but, c'est pour que, premièrement, qu'on comprenne que l'homme n'est pas Dieu. L'homme a besoin de l'autre. Je suivais le reportage, le documentaire sur l'histoire de François Mitterrand. Déjà lors de son premier mandat, il savait qu'il était malade. Et le médecin raconte que c'est lui qui avait la vie et la mort du président dans sa mallette. Ils allaient dans des réunions, dans des sommets. Bien évidemment, tout était caché. Même sa femme ne savait pas. Et le médecin dit, eh ben, j'étais solitaire, j'étais seul. Et il dit, l'homme qu'on voit, François Mitterrand, un grand président fort, à caractère, il dit, mais lorsqu'il est devant moi, il est comme un enfant. Mais docteur, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Mais docteur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais je dis, je comprends effectivement, Dieu a fait les choses ainsi. Toi qui es président, il arrive que tu arrives devant quelqu'un qui décide aussi pour toi. Il fait l'ordonnance, il dit non, tu prends comme ça. C'est pas toi le président qui va dire non, moi je veux telle dose. Non, lui il te dit, c'est moi qui connais. C'est moi qui décide, donc tu prends comme ça. Tu es président, mais tu dépends quand même de ton médecin. Tu dépends de ton médecin. Et Dieu a fait les choses ainsi. Qu'on vive dans une interdépendance pour qu'on se rappelle qu'un seul est parfait, un seul ne tombe pas malade, un seul ne dort pas, un seul ne sommeille pas comme il est écrit dans le psaume, c'est l'Éternel des armées. Amen. C'est cela. C'est cela. Et c'est ça que cet exemple nous montre, que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, vient demander le soutien. Il dit, soutenez-moi, priez pour moi. Et malheureusement, beaucoup veulent se battre tout seuls. Beaucoup veulent faire tout seuls. Et quand ils obtiennent, ils disent, j'ai travaillé dur. J'ai souffert pour avoir ceci. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Là, on se glorifie soi-même. Et avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Nous lisons dans Marc 4. Marc 4, verset 35. Marc 4, verset 35. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous pas point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Voilà les disciples du Seigneur qui sont des hommes de mer, ils connaissent la mer. Pierre était pêcheur, c'était son travail professionnel. Ce n'était pas la première tempête. Il avait de l'expérience. Et sans doute qu'il a toujours réussi à s'en sortir. Mais ce jour-là, ils ont tout fait. Ils ont tout fait, ils ont échoué. L'eau commence à rentrer dans la barque. À ce moment-là, ils disent, « Ah, mais nous avons le Seigneur qui est avec nous. » Ils vont réveiller Jésus pour dire, « Maître, mais regarde, nous périssons alors que toi, tu dors. » Le Seigneur vient, il dit une parole, « Silence. » Et la mer se calme. Il dit, « Mais pourquoi vous avez eu peur ?» Et cet exemple de Pierre, c'est ce que nous avons dit précédemment. C'est l'exemple, la nature humaine. L'homme est comme ça. Je pense que si ce n'était pas question de vie ou de mort à ce moment-là, peut-être qu'il se serait passé même de l'aide du Seigneur. Mais là, vous êtes dans la barque, en plein milieu. Vous allez faire comment? Tu dis, si je plonge pour nager, je n'aurai pas le souffle pour atteindre la côte. Donc, il n'y a que le Seigneur qui peut m'aider dans cette situation-là. Et Dieu permet des situations dans nos vies pour qu'on puisse d'abord crier à lui, solliciter son aide, mais pour qu'on puisse les uns des autres, nous soutenir. C'est ça que le Seigneur veut. Et cet exemple nous montre que Dieu a permis cela pour qu'il puisse faire appel au Seigneur, à Jésus. Qu'il puisse faire appel à Jésus. Quelqu'un dira, oui, mais je peux prier, Dieu va m'écouter. Oui, c'est vrai, Dieu va t'écouter. Et Dieu fait comme il veut. Mais dans son schéma, il veut aussi quand nous sommes ensemble, quand nous prions, comme il est écrit là, où deux ou trois sont réunis en son nom, c'est sa parole aussi qui le dit. Eh bien, il agit. Comme les chrétiens qui disent, moi, je vis ma vie chrétienne tout seul, parce que les chrétiens, les pasteurs m'ont déçu. Mais la Bible nous dit qu'il est agréable pour Dieu de voir ses enfants unis ensemble. Et qu'est-ce qu'il est dit? Car c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a des bénédictions que nous ne recevons que puisque nous sommes ensemble. Au travers de la parole de Dieu, au travers du témoignage d'un frère, au travers d'une bénédiction aussi même matérielle. Mais le schéma de Dieu, c'est qu'on puisse vivre tous ensemble. Comme il est écrit dans Actes 2, ils étaient ensemble, ils persévéraient tous ensemble. Personne ne disait que les biens étaient à lui. Personne ne disait que moi j'ai des dons et l'autre pas. Non, comme chez les Corinthiens. Chacun avait besoin de l'autre. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique aux Corinthiens au chapitre 12, en disant que nous sommes un corps et dans le corps, chaque membre a son utilité. C'est cela. Et là, les disciples se retrouvent devant la tempête. Ils ont essayé par eux-mêmes. J'ai envie de dire même, ils ont perdu du temps. Et c'est ce qui nous arrive lorsque on veut faire les choses par nous-mêmes. Non seulement on perd du temps, mais en plus, on s'épuise. Lorsqu'on veut faire les choses par soi-même, on perd du temps et on s'épuise. L'exemple qu'on nous donne souvent, une personne qui a des charges lourdes, quand il les porte seul, c'est très difficile. Mais il suffit qu'une personne vienne prendre le sac de l'autre côté, et ben, le fardeau est partagé et on est plus efficace ensemble. C'est cela. Et l'exhortation d'aujourd'hui, c'est de nous dire, sortons de notre égoïsme. Le Seigneur nous a mis les uns à côté des autres, c'est pour bénéficier de la grâce de chacun. Peut-être que moi j'ai prié, j'ai jeûné, le Seigneur n'a pas agi. Mais peut-être que quand l'autre frère va prier, le Seigneur va agir, puisqu'il fait comme il veut. Mais l'idée qui est derrière, c'est que nous puissions solliciter. Alors je ne dis pas qu'on va dire tous nos problèmes à tout le monde, non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est que nous puissions avoir cette pensée-là. Comme on a dit que l'homme cherche toujours à se battre par lui-même. Il cherche toujours à se débrouiller par lui-même. Mais il finit par mourir. Je me rappelle du témoignage, c'est un témoignage qu'on a vu ici de Michael. C'est un jeune qui a grandi avec un père très violent. Et il dit qu'il faisait tout, tout ce qu'il faisait, c'était pour attirer l'attention de son père. Les études, et tout ce qu'il faisait, le sport, il brillait dans toutes ces choses, c'était pour attirer l'attention de son père. Mais finalement, son père ne lui rendait pas tout cela. Et un jour, il dit qu'il a volé un sac. Et là, son père l'a frappé. Et tous les jours, c'était des violences. Il a eu une bonne situation, un très bon boulot, il travaillait. Et il dit, j'étais vide au fond de moi, j'étais triste. Et un jour, ma mère me dit, viens, on va à l'église. Et il dit, il va à l'église, il écoute la parole, il est touché ce jour-là, mais il dit, non, ce n'est pas pour moi. Et il continue sa vie. Il avait son entreprise qui marchait très très bien, et il dit, pour tenir le rythme, il fallait que j'aie des choses pour me soutenir. Et il était dans la cocaïne, dans l'héroïne, dans l'alcool, pour soutenir le rythme. Il dit qu'il travaillait beaucoup, parfois même 18 heures par jour, pour satisfaire ses clients. Et il dit, lorsque les gens le voyaient, le regardaient, les gens trouvaient qu'il avait bonne mine. Mais il dit, au fond de lui, il était mort, il était triste. Au fond de lui, il était malheureux. Un côté, la voix de Dieu qui l'appelle. De l'autre côté, c'est sa fierté, son envie de réussir, de prouver à son père qu'il est quelqu'un. Il dit, au fond de lui, en réalité, c'était la drogue qui le soutenait. Et il était malheureux. Il a perdu, sa femme est partie, il a perdu son entreprise, sa maison. Il s'est retrouvé dans des foyers de SDF. Et un jour, assis par terre, il lit une Bible. Et dans la Bible, le Seigneur lui dit, eh ben, heureux ceux qui suivent le conseil de l'Éternel, car eux, ils vivront. Et là, à ce moment-là, il appelle sa mère. Il dit, j'ai faim. Je t'appelle. Souvent, je t'appelle pour que tu me donnes l'argent. Mais aujourd'hui, je suis au plus bas. Et il dit, pour prendre le téléphone, appeler sa mère, c'était un combat. Mais à ce moment-là, il a mis sa honte de côté. Il a dit, je veux demander l'aide de ma mère. Il appelle, il dit, je ne demande pas de l'argent, mais je demande tout simplement que tu m'apportes à manger. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé. Et la mère raccroche. Il s'est dit, bah, tout ce qui me restait, c'était ma mère. J'ai eu du mal déjà à l'appeler. Maintenant qu'elle me raccroche au nez, bah, qu'est-ce qui me reste? Il ne me reste plus que Dieu. Et là commence une nouvelle histoire avec le Seigneur. Il commence à lire la Bible régulièrement. Le Seigneur lui parle. Il est touché par... Tout seul, le Saint-Esprit agit. Il est touché par le Seigneur. Et il se convertit. Et à partir de ce jour-là, sa vie a été transformée, changée. C'est cela. Le Seigneur veut. Il dit, je voulais me battre par moi-même pour que les gens voient que je suis un battant, un homme fort. Et c'est ça l'impression que les gens voyaient. Et c'est ce qu'on voit aussi autour de nous. des gens qui sont apparemment bien, mais on t'apprend le lendemain que, tiens, ton collègue, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il a fait. On se dit, mais c'est pas possible. Mais quelqu'un qui ne laissait rien percevoir, mais c'est ça la réalité. C'est que nous sommes dans un monde d'illusions où on veut se battre seul. Et malheureusement, ça finit comment ? Ça finit mal. La semaine dernière, on a eu deux jeunes, mais des costauds, des caïds. L'un a été interné à Elbeuf, en pédiatrie, mais suivi par des psychiatres, et l'autre carrément à Navarre, à l'hôpital psychiatrique. Pourtant, ce sont des jeunes qui sont forts, costauds, très intelligents. Mais de jour en jour, c'est la délinquance, c'est l'alcool, c'est les drogues. Ils sont rentrés dans un engrenage et on discutait avec ces jeunes. On dit, mais vous avez besoin d'aide. Alors, on ne savait pas comment trop dire les choses parce que si on dit hôpital psychiatrique, ils vont dire, mais vous êtes fous. Non, moi, je ne suis pas fou. Déjà, pour ces jeunes-là, parler de ça, c'est une abomination. Et donc, je discute avec le premier. Je dis, écoute, tu n'as que 13 ans. Il n'a que 13 ans, mais il fait presque 1m90. Il ne fait pas du tout son âge. Costaud, marqué par la vie. Père absent, maman alcoolique, dans la drogue. On lui demande, mais pourquoi tu fumes? Pourquoi tu fais ça? Il dit, je veux faire comme ma mère. Je lui dis, mais est-ce que c'est pour attirer l'attention? Il dit, oui, parce que mon père ne veut pas de moi, ma mère ne veut pas de moi. Alors je fais des bêtises pour qu'ils sachent au moins que je suis là. Je lui dis, mais tu t'y prends mal. Mais pourquoi tu reviens ici? Parce que tu es tout le temps en fugue. Parce qu'entre-temps, ils sont partis en fugue. Mais pour dire qu'ils sont arrivés à un niveau, ils sont en pleine garde à vue. Ils sont trois, avec une fille qui est placée aussi au foyer, chez les filles. Pendant qu'ils sont questionnés, la fille a le courage de prendre le trousseau de clés du gendarme, de mettre dans sa poche. Le gendarme n'a pas vu. Et à un moment, la fille se lève, elle fait signe, ils sortent, ils ouvrent et ils partent. Déjà pour le gendarme, déjà c'est une faute terrible de savoir que les clés ont été... Mais quel courage, on arrive à ce point. J'ai dit, mais j'ai vu des jeunes frapper des policiers, frapper tout ça devant moi, mais là, quel courage. En pleine gendarmerie, en garde à vue. Tu prends les clés, en plus c'est la fille. Elle prend les clés, ils sortent, ils ouvrent toutes les portes, ils sortent et ils arrivent à l'extérieur, ils insultent les gendarmes. Je me suis dit, mais comment déjà les gendarmes n'ont pas réagi? Peut-être qu'ils étaient dépassés aussi, je pense. De se dire que, mais non, c'est pas possible qu'ils se lèvent comme ça. Et en discutant avec le jeune, je dis, mais regarde tout ce que tu as fait. Et il finit par dire, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai dit, ah voilà, c'est ça. Il fallait commencer par cela. Voilà maintenant les problèmes dans lesquels tu te mets. Tu traînes avec des autres qui ont 17 ans. Toi, tu n'as que 13 ans. Et physiquement, il est marqué partout des scarifications, des malheureux, tristes. Et c'est lui-même qui décide, il dit, bon, je vais être interné, je vais aller à l'hôpital parce que si je continue comme ça, je risque de faire du mal à quelqu'un. Et nous-mêmes, on était étonnés, on se dit, mais c'est la première fois qu'on voit un jeune demander à aller à l'hôpital. Et ça fait une semaine qu'il est à l'hôpital. Et cet exemple nous montre que nul ne peut s'en sortir tout seul. Nous avons besoin du Seigneur, mais nous avons besoin aussi du soutien des uns des autres. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 15:1 que les forts soutiennent les faibles. Si la Bible le dit, c'est parce que le Seigneur sait qu'il y aura des jours où on ira moins bien. Et on aura besoin du soutien des autres aussi. On aura besoin d'un encouragement. On aura besoin d'écouter, d'entendre une parole qui nous fortifie pour dire « Le Seigneur est présent, il agira. Le Seigneur est fidèle, il est fidèle à sa promesse. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. » On a besoin d'entendre ça. Mais pour ça, il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Malheureusement, plutôt que de s'humilier, beaucoup préfèrent prendre la fuite. Dire, oh, les choses de Dieu. Oh, je ne veux plus entendre. Oh, mais non. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est humilié, s'est fait petit, jusqu'à aller voir les disciples pour quémander de l'aide, du soutien dans la prière, alors à combien plus forte raison nous? On se rappelle de l'histoire de ce fils prodigue qui a décidé de partir. Et il s'est retrouvé à manger la nourriture des cochons. Et la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il a commencé à réfléchir. Et c'est ce que je disais à ce jeune Fabien. Je dis, mais regarde. Chose étonnante, il est rentré parce que ça faisait presque un mois qu'ils sont en fugue. Ils sont en fugue, la police les ramène. Le lendemain, ils repartent. Le gendarme les ramène, ils repartent en fugue. Un mois. Et mon collègue me dit un jour, il dormait sous la douche, la porte ouverte, il dormait. Il ne dort pas. Comme un animal, toujours en cavale. Je dis, mais regarde, tu as une chambre, tu as un lit, tu as des éducateurs pour toi, tu as tout ce qu'il faut. Et tu préfères vivre à l'extérieur. Et finalement, il a reconnu, il a dit, je vais arrêter tout ça. Je suis fatigué. Bon, on espère en tout cas que le Seigneur va le toucher. Et l'autre, son mentor, Axel, pareil, 17 ans, à l'hôpital. Psychiatrique, lui, carrément. Et tout ça nous montre qu'on a besoin. Ils disent, les éducateurs, ah, vous nous embêtez, ah, mais il vient des moments où ils reconnaissent, ils disent, ah, j'ai besoin. J'ai besoin d'aide. C'est ce que je disais tout à l'heure, que Dieu a fait de sorte que nous vivions dans une interdépendance les uns des autres. Tu as beau être président de la République, tu as des conseillers. Parfois, tu vas faire quelque chose de conseiller, va te dire, non, tu as mal fait. Parce que tu n'es pas seul au monde. Tu n'as pas tout seul, comme on dit en français, la science infuse. Non. Tu as besoin de l'avis d'un tel, d'un tel. Nous, lorsqu'on écoute des présidents donner des mesures ou des programmes de campagne présidentielle, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est intelligent? Mais non, il a des spécialistes en santé, des spécialistes en éducation. Chacun donne ses propositions. Et tout ça, fait, ensemble, c'est lui qui présente ça. Mais en réalité, il y a des gens qui travaillent derrière, qui connaissent les dossiers mieux que lui-même. Et ça, ça nous montre qu'on a besoin de cela. Comme il est écrit, Israël, lorsqu'il se battait, il se battait comme un seul homme. Ils étaient ensemble. C'est cela. Et pour cela, on a besoin de s'humilier. Le fils perdu regarde la situation. Il se dit, mais je me retrouve à manger cette nourriture. Alors que chez mon père, même les gardiens, les ouvriers sont mieux lotis que moi. Il dit non, je vais me lever, je vais aller voir mon père. Je vais m'excuser, je vais demander de l'aide. Mais cette démarche-là, c'est humiliant de retourner vers son père. Pour ces jeunes-là qui sont là devant nous pour dire, bon, appelez les pompiers tout simplement. Pour eux, c'est humiliant en ce moment-là, parce que les autres vont apprendre aussi. Les autres jeunes vont apprendre. Eux qui passaient pour des caïds, ils vont apprendre que, ben, tiens, Axel, tiens, Fabien, ils ont demandé à aller à l'hôpital. Mais à un moment donné, devant la réalité, soit on continue à faire le costaud, et ça finit mal, ou alors on se fait petit. On dit, soutenez-moi. Et le fils va voir son père et dit, j'ai mal fait. Je me suis trompé. J'ai pris l'argent. Je suis parti me réjouir, m'amuser, mais je me suis trompé. Pardonne-moi. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de solliciter cette aide auprès des autres? Lorsque je parle d'aide, je ne parle pas d'aide matérielle seulement. Ça peut l'être aussi, ça peut l'être. Il n'y a pas de problème. Mais l'aide la plus importante, c'est l'aide dans la prière. Il y a parfois des personnes avec qui on discute, ils te parlent de son problème. Tu dis, mais est-ce que tu as prié pour ça? Même pas, non. Est-ce que tu as demandé la prière pour ça? Non, on n'y pense même pas. Je dis, mais commence déjà par ça. Oui, mais si j'ai dit, les gens vont connaître mon problème. Je dis, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui-même, il s'est humilié. C'est ce qui est écrit dans Philippiens. Nous lisons Philippiens 2 pour finir. Philippiens 2, 5. Philippiens 2, 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Voilà ce qu'on nous dit. Jésus-Christ, qui est Dieu, s'est dépouillé lui-même. Il est venu paraissant comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Lorsque Jésus sollicite l'aide des disciples, est-ce parce qu'il est dépassé? Est-ce parce que... Non, c'est parce qu'il a compris que c'est le schéma de Dieu. Parce qu'il aurait pu arrêter le processus. Il a compris qu'à ce moment-là, mon Père veut que nous puissions être unis dans la prière. Il a compris qu'à ce moment-là, il avait besoin de ses frères et sœurs pour le soutenir. Il s'est humilié lui-même, verset 8, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On peut s'arrêter là. Voilà ce qui est dit du Seigneur. Et la Bible nous dit, ayant les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui nous empêche de vivre cela? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil, on se dit, mais je ne veux pas dire mon problème à un tel. Il y a des gens qui ont même honte, entre guillemets, je dirais même, de solliciter même les responsables, les pasteurs. Tu souffres, mais tu es tout seul dans ton coin, tu souffres. Et en souffrant ainsi, finalement, qu'est-ce qui se passe? Puisque la situation ne change pas, les dispositions ne sont pas bonnes. Tu peux dire, oui, moi je prie tout seul. Mais tu pries tout seul, la situation ne change pas. Et parfois même, on entend certains dire, oui, mais personne ne m'a appelé pour me soutenir. Personne. Mais les gens ne savent même pas quelle situation tu traverses. Si le Seigneur a voulu que nous soyons un corps, c'est pour que nous puissions partager. Les bons moments, les moments de soutien. Dans la prière, on voit Pierre était en prison, les bien-aimés prier. Ils ont intercédé. Les portes se sont ouvertes, Pierre est venu, il a frappé, ils étaient tous contents. Pourtant, c'était Pierre. Mais il a eu besoin du soutien des autres. Paul lui-même dit, il dit, priez pour moi afin que lorsque j'annonce l'évangile, que je l'annonce avec puissance et efficacité. Est-ce que c'est tout simplement une question de connaître la parole? Paul connaissait la parole. Il connaissait la pensée de Dieu. Mais il sait que la connaissance elle-même ne suffit pas avec Dieu. On a besoin de la prière. Et c'est ce que la Bible nous montre lorsque Israël combattait contre Amalek. Il est écrit, Moïse avait les mains levées, il était soutenu. C'est l'image de la prière, du soutien. Israël remporté. Et lorsque il y avait un fléchissement, il y avait aussi un fléchissement sur le terrain. Et tous ces exemples nous montrent qu'on a besoin du soutien les uns des autres. C'est cela. On a besoin du soutien les uns des autres. Que le Seigneur nous aide. Dans notre pensée, parfois on se dit, si je demande l'aide à un tel, c'est comme si je lui suis redevable. C'est ça le vrai problème. On dit, je vais être quitte. Il y a des gens, parfois, tu lui dis bonjour, il ne te dit pas bonjour parce qu'il sait que la prochaine fois, quand vous allez vous voir, il sera redevable du bonjour aussi. Il y a des gens comme ça. Le voisin, tu le vois, il tourne la tête. Malgré ça, tu le suis quand même. Bonjour, monsieur, avec le sourire. Et la prochaine fois, quand tu le vois, il est déstabilisé. Même s'il ne dit pas bonjour, au moins il te regarde. Voilà. C'est ça, cette pensée, cette mentalité. Là, on se dit, si je fais du bien à l'autre, non, si je reçois le bien de l'autre, alors je serai redevable. Alors on préfère, non. Tu veux pas, je vais t'aider. Non. Et le Seigneur veut nous libérer de cela. que nous puissions réaliser que nous sommes un corps. Comme le séminaire que nous avons eu, vivre, travailler ensemble. Dans l'église du Seigneur, c'est cela. Nous sommes un corps. Et dans ce corps, chaque membre est utile à son importance. Si le maître Jésus-Christ nous montre l'exemple, lui qui est le Fils de Dieu, il a sollicité le soutien des bien-aimés. Alors, à combien de fortes raisons, nous aussi. Alors, n'ayons pas honte. Si c'est l'orgueil, il y a des gens, parfois ils sont mystérieux, on se voit ici, mais on ne se connaît même pas. Certains disent, ah, les chrétiens ont beaucoup de problèmes. Moi, je préfère vivre caché, comme ils disent dans le monde, hein, vivre caché, vivre heureux. Beaucoup vivent cachés. La cachotterie finit par se voir. On se rend compte que finalement, la personne souffrait. Ah bon, on ne savait pas. La personne s'est retrouvée à l'hôpital. La personne s'est retrouvée à tel endroit, on ne savait pas. Le Seigneur veut que nous puissions profiter de la grâce que nous avons et de nous soutenir mutuellement. Aujourd'hui, je suis fort. Je vais te visiter. Je vais prier pour toi. Mais demain, j'aurai besoin aussi de tes prières. J'aurai besoin aussi de ton soutien. J'aurai besoin de tes conseils. Et après-demain, je veux te soutenir aussi. Je veux te fortifier. C'est ça que le Seigneur veut que nous puissions intégrer. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à dépasser la honte, à dépasser l'orgueil qui nous empêche de solliciter l'aide du Seigneur. Et l'aide du Seigneur, elle se manifeste aussi au travers de ce qu'un bien-aimé peut nous apporter. Nous allons prier pour que le Seigneur nous délivre de tout esprit d'égoïsme, tout esprit d'orgueil qui veut que nous cherchions à nous en sortir tout seuls. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Nous avons vu l'exemple de notre maître, le Seigneur Jésus lui-même qui a sollicité les disciples pour être soutenus dans la prière, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à suivre le même exemple, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons suivre le même exemple. Seigneur, brise, Seigneur, la glace, Seigneur, qui ne veut pas que nous puissions, Seigneur, solliciter l'aide, ne serait-ce que le soutien dans la prière. Parfois, nous passons par des situations que tu permets, Seigneur, comme des tempêtes, Seigneur, pour que nous puissions faire appel à toi, Seigneur. Faire appel aussi, Seigneur, à nos bien-aimés qui sont autour de nous, Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions porter la charge et nous décharger sur toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Mets en nous l'humilité, Seigneur. Mets en nous l'humilité, Seigneur, que nous ne puissions pas être esclaves, Seigneur, du regard des autres, Seigneur, mais que nous puissions être attentifs à ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous rappelle que nous sommes un corps. Merci pour ta parole qui nous rappelle, Seigneur, que là où moi je n'arrive pas, mon bien-aimé peut élever la voix pour me soutenir. Aide-nous, Seigneur, à réaliser cela. Délivre-nous de toute forme d'égoïsme, Seigneur. Au nom de Jésus, que nous puissions accepter ton fonctionnement. Que nous puissions vivre Galates 6:2 qui dit porter les fardeaux les uns des autres afin d'accomplir la loi de Christ. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à porter les fardeaux les uns des autres, à être concernés aussi par ce qui se passe autour de nous, Seigneur, que nous puissions être concernés, que nous ne puissions pas prendre la distance, Seigneur, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, que nous puissions, Seigneur, être des intercesseurs, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, agis, Seigneur, au milieu de nous. Que ton nom soit béni pour ta parole, qui nous transforme, qui guérit nos cœurs. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour ton esprit qui scelle ta parole, Seigneur. Et merci pour ta parole qui nous donne la foi encore aujourd'hui. Nous te recommandons notre retour entre tes mains au nom de Jésus. À toi la gloire et la louange. Au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.